Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Bon, mercredi, vendredi, déjà je prends de l'avance, moi, mercredi 18 décembre, le journal de la mi-journée présenté par Cédric Vallax. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Le moustique est devenu l'ennemi public numéro 1. La lutte anti-vectorielle pour l'éradiquer de notre île se met en place, mais ça ne sera pas sans conséquences. C'est le cas pour les agriculteurs biologiques, mais pas que. Nous ferons le point avec le président du syndicat des apiculteurs de Polynésie, invité de cette édition. Matérialiser les victimes d'accidents mortels pour déclencher une prise de conscience des conducteurs. Les premiers panneaux représentant des silhouettes ont été installés hier à Punaouya. Qu'en pensez-vous? Nous sommes allés vous poser la question. On parlera également festivité et bonne humeur avec les Jeux Interville. C'est à partir de ce soir à Taillalapu Est. Bon appétit si vous êtes à table et à tout de suite.
Alors, les cultures bio menacées par la lutte anti-vectorielle.
Lutter contre les moustiques est devenue une démarche prioritaire de santé publique. On n'y coupera pas. La lutte anti-vectorielle par vaporisation d'insecticides sera menée sur tout Haïti. C'est la crainte de la majeure partie des agriculteurs bio du territoire qui s'échinent pour produire des fruits et légumes sans produits chimiques et qui risquent de voir leurs efforts réduits à néant par les actions de lutte anti-vectorielle. La diffusion d'insecticides sur leurs champs pourrait les priver du label bio pour une durée de 3 ans ou plus. Hier, le SPG Biofetia, association de promotion et de protection de l'agriculture biologique au Fénois, a rencontré les autorités pour mettre en place des solutions. Un accord a été conclu. Les insecticides ne seront pas diffusés dans un rayon de 100 mètres autour des cultures. Une mesure plutôt satisfaisante pour Reya Teina, la présidente de l'association qui invite tout de même les agriculteurs à rester vigilants.
Nous, on pense que non, on ne sera pas touché. Puis ils vont nous laisser au moins les 100 mètres. Donc ça doit être bon. Et il faut bien que quand ils vont venir ce jour-là, qu'il n'y ait pas de vent non plus. Je pense qu'ils vont quand même étudier ce cas-là. Et nous, on va être là, près de nos exploitations, à surveiller, à ne pas que ces gens-là pulvérisent ces produits sur nos exploitations. Nous, on a fait des efforts pendant plusieurs années de laisser notre parcelle sans produits. Et si jamais un jour ça arrive, ben on est obligé d'attendre encore 3 ans minimum. Bon, c'est vrai que les moustiques font du mal aussi, mais faut quand même penser aussi à nos produits quand même. Parce que c'est tout le monde qui consomme, hein.
Alors cette mesure de précaution ne sera appliquée qu'auprès des agriculteurs dûment identifiés auprès du service du développement rural.
Et les abeilles aussi sont en danger.
C'était le cri d'alarme lancé par le syndicat des apiculteurs de Polynésie française à l'annonce de l'utilisation du malathion comme insecticide. Depuis, le gouvernement a fait marche arrière. Exit le malathion, c'est finalement la deltamétrine qui sera utilisée. Reste qu'un insecticide, c'est fait pour tuer les insectes. Tous les insectes, les abeilles sont donc toujours menacées. Pour en parler avec nous, nous recevons Layari Crawford, le président du syndicat des apiculteurs. Layari, bonjour. Vous avez eu une réunion hier avec les services du pays, mais vous restez très inquiet.
Oui, il y en a, effectivement. Comme vous le venez de le préciser, un insecticide concerne tous les insectes. Les abeilles n'y échapperont pas. Mais encore une fois, nous sommes citoyens avant tout. Donc nous comprenons les enjeux de santé publique, mais nous partageons pas le point de vue des autorités, à savoir l'efficacité de ces pulvérisations.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur le sujet. Et donc la plupart des études étaient donc menées sur coût-efficacité. Alors que l'IRD a publié dans le bulletin épidémiologique hospitalier de 2010 un rapport justement sur l'efficacité de ces pulvérisations et en faisant le coût-bénéfice. Et ça a été clairement dit que quand on prend tous les dommages collatéraux, finalement, il y a très peu de bénéfices. Je veux dire, il suffit de ramener ça à un particulier, vous traitez chez vous, tout le monde sait que 10 jours après, il y a tout autant de moustiques. Donc je veux dire, voilà.
Et il se trouve que dans ce cas très précis, c'est à peu près la même technique qui a été utilisée pour la Réunion dans le cas de la propagation du chikungunya où les autorités sur place ont réagi très rapidement et que en dehors de la pulvérisation, c'est un effet croisé de différentes techniques. La lutte mécanique, c'est-à-dire la destruction des gîtes, plus c'est l'ajout de différentes techniques pour détruire les moustiques qui auraient prouvé son efficacité, en tout cas qui serait la seule mesure efficace.
En tous les cas, il faut déjà faire la part des choses entre le risque chikungunya et le risque Zika et dengue. Le risque chikungunya est beaucoup plus élevé.
Maintenant, sans parler de chikungunya, c'est juste la façon de tuer les moustiques.
Voilà, sur la méthodologie, effectivement, ils ont ils se sont un peu inspirés de ce qui s'est passé de l'autre côté. Mais premièrement, il faut rappeler une chose, c'est que c'est des surfaces beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que la Réunion, il y a forcément beaucoup plus d'espace sauvage. Le problème qu'on rencontre à Tahiti, c'est que finalement, sur l'espace disponible, nous sommes tous sur le littoral, les agriculteurs, les apiculteurs, les particuliers, et que finalement, ils nous ont proposé des zones d'exclusion, c'est-à-dire donc des zones qui seraient exemptes de tout traitement.
Oui, des zones d'accueil
pour mettre les ruchers, mais même ça devient difficile en Polynésie, parce que quand vous trouvez des zones reculées où il n'y a pas d'habitation, il y a des agriculteurs. Quand vous allez au fin fond des vallées, effectivement, il n'y a pas d'habitation, mais il y a des agriculteurs qui utilisent des insecticides. Donc on se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, si je peux m'exprimer ainsi, et on n'a pas grand-chose comme solution.
On n'a pas grand-chose comme solution. Malheureusement, il y aura des dommages collatéraux, ce sont des insecticides, des insectes malheureusement donc disparaîtront. Il était question aussi de transhumance des ruches.
Voilà, c'est-à-dire que en fait, ce qu'ils ont fait dans les autres pays, c'est que, comme je vous disais tantôt, ils ont prévu des zones d'exclusion, c'est-à-dire des zones où il n'y aurait pas d'intérêt à traiter et où les apiculteurs pourraient déplacer leurs ruches là. Mais sans parler dans les détails, il y a des, comment dire, ça peut être envisageable dans une certaine mesure, mais il y a d'autres difficultés liées à l'apiculture. Par exemple, ceux qui font de l'élevage de rennes, il faut avoir des mâles dans le coin et tout, et on peut pas déplacer tout un rucher d'élevage. Ça paraît très difficile.
Est-ce qu'on peut isoler une ruche pendant 24 heures? C'est-à-dire la rendre complètement étanche 24 heures?
On peut l'isoler, effectivement. Il y a des techniques. Il faut la mettre premièrement à l'abri de la lumière, à un endroit aéré, à un endroit humide. D'accord, on peut le faire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la rémanence des produits autour. Et puis aussi, il y a un phénomène particulier à l'apiculture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des doses sublétales, donc les abeilles ne meurent pas, mais le fait qu'elles ramènent tout à la ruche, il y a un phénomène de concentration. C'est ce qui se passe en France quand les abeilles meurent en hivernant sur des nourritures intoxiquées à dose homéopathique, mais le fait que toutes les butineuses le ramènent, il y a un phénomène de concentration qui se passe à l'intérieur de la ruche.
Ça, ce sont sur des produits chimiques persistants. Nous avons appelé le SDR, le ministère de l'Agriculture. On nous garantit que ce produit, justement, est sans persistance, que c'est un effet flash qui a pour objectif seul de tuer les moustiques et les insectes en vol, et que c'est un produit qui est très sensible aux UV, donc qui devrait justement disparaître très rapidement.
Oui, on comprend la bonne volonté de ces services d'avoir le moins de dommages et intérêts, enfin de moins de, je veux dire, d'effets collatéraux. Mais disons que on est déjà dans une situation difficile où on est en train de lancer la filière, où il manque de miel, on est en train de booster la filière, donc. C'est dur à accepter pour nous, tout en comprenant l'enjeu public de santé publique. Mais la grande question que nous on a posée hier et qui est restée sans réponse, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous faites entre deux épidémies? Parce qu'on a toujours l'impression qu'on attend le dernier moment pour sortir l'artillerie lourde, et on a toujours l'impression ici que on n'anticipe pas les choses, on réagit à ce qui se passe. Pourquoi je m'exprime ainsi? En juin, il y a eu cet épisode de Malathion. Ils ont donc répandu cet insecticide de manière localisée, là où il y avait des malades. On en a déjà fait les frais. Et depuis, vous et moi, comme tout le monde, on n'a rien entendu. On a entendu, oui, l'épidémie progresse depuis 2-3 mois, et on n'a pas vu de travail de fond. Je m'explique. Quand on a parlé du dégitage avec l'agent biologique, ils nous disent, certes, c'est efficace, c'est bio, mais il reste, combien même on le fait, il reste les moustiques adultes qui peuvent vivre pendant 3 à 4 semaines. Alors nous, on dit, d'accord. Mais là, la saison des pluies, elle va arriver. Et pourquoi vous n'avez pas démarré depuis août?
C'est aussi un problème de tout le monde, de tout à chacun.
Exactement.
Puisque la destruction des gîtes, ça concerne absolument tout le monde. Vous avez réunion vendredi encore, et j'imagine que vous aurez des solutions à apporter. Nous ferons donc un point vendredi au terme de cette réunion.
Oui, excuse-moi, juste si je veux me permettre, le dernier effet, c'est exactement ce que tu viens de dire. Et je voulais mettre le doigt là-dessus en disant... Il y a un dernier effet qui a été prouvé dans la bibliographie scientifique, c'est que les gens ont tendance à penser qu'ils n'ont plus rien à faire. Et c'est-à-dire, ils se disent, ah ben ils vont passer, donc moi j'ai plus rien à faire. Et quelque part, ça a été prouvé, des fois ça entraîne des effets inverses aux effets
souhaités. C'est donc faux, il faut continuer à lutter contre les jutes, chacun chez soi, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau stagnante pour accueillir justement les larves des moustiques. Soyons donc responsables, tuons tous ces sacrés gîtes à moustiques.
Merci.
des silhouettes pour mettre fin au carnage sur les routes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous en parlions ce matin. Le gouvernement a lancé son opération Silhouette. C'était hier. But de la manœuvre, matérialiser les victimes d'accidents mortels pour déclencher une prise de conscience des conducteurs. Nous sommes allés à votre rencontre à Punaouia où ont été installées les deux premières silhouettes. C'est aux alentours du PK16, à un endroit particulièrement dangereux puisqu'on y dénombre plusieurs accidents mortels ces dernières années. Alors, que pensez-vous de cette campagne choc? Avez-vous vu ces fameuses silhouettes? Ce sont les questions que nous vous avons posées.
J'habite PK17, là je suis surprise, je n'ai absolument rien vu. Et pourtant, je roule doucement.
Ça te paraît important de symboliser ces endroits accidentogènes?
Oui, quand même, oui, je trouve, oui, c'est bien. C'est un rappel qu'il faut rouler doucement, surtout aux jeunes.
Je viens d'en voir une, ouais. Ah, c'est une façon au quotidien de rappeler aux gens que la mort est à n'importe quel tournant. Et je trouve ça plutôt pas mal, ouais. Ça m'a pris la chair de poule. Ouais.
Non, j'ai pas vu.
Ouais, en tout cas, ça interpelle. Donc, ça laisse pas indifférent, on l'a bien vu. Hein. On s'est demandé avec les enfants ce que c'était. Et...
En fait, j'ai vu qu'un seul, mais j'ai cru que c'est pour mettre en valeur un quartier ou... Voilà.
Mais justement, j'ai pas fait attention, là. J'ai pas vu.
Ça vous paraît être une bonne idée?
Oui, très très bonne idée. C'est, quand en ce moment, on a trop d'accidents aussi, faut mettre des trucs comme ça, des panneaux qu'on peut signaler. Ça, des gens, il fait pas attention, quoi. C'est ça aussi.
C'est une bonne idée, mais vous l'avez pas vu.
Non, comme je vous dis, j'ai pas vu justement. C'est vrai, j'ai pas vu.
Sachez que le gouvernement installera, avec l'accord des familles des victimes, de nouvelles silhouettes après chaque accident mortel. Des silhouettes laissées durant 3 mois au bord des routes dans les 2 sens de circulation.
Radio 1, premier sur l'info. Retour au journal avec Sadek Vallax. Un peu de bonne humeur maintenant avec des jeux Interville à Taillepouest.
L'association Jeunesse de la Presqu'île organise pendant 4 jours, et ce à partir de ce soir, les jeux Interville de Taillepouest. Cet événement aura lieu au CES de Taravao et débutera à 19h. Les compétiteurs ainsi que les spectateurs auront ainsi le droit à 3 heures de détente puisque cet événement se finira à 22h. Le reportage de Vaïté Ourari Pambrin.
Rassembler les jeunes de Faouné, Taravo, Ahiti, Poué ou Taoutira à travers le sport, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Jeunesse de la Presqu'île. Cela fait 3 mois que Heimouana et son équipe travaillent sur ce projet. Aujourd'hui, leur but est atteint puisque 120 jeunes se sont inscrits, dont 30 par commune, comme nous le dit Heimouana Lins, président de l'association.
C'est pour rassembler la jeunesse et pour les occuper, pour qu'ils puissent mieux se connaître, faire connaissance et contribuer à leur épanouissement. Comme ici à la Presqu'île, surtout à Travaux, c'est rare qu'on ait des activités. Donc en soirée, c'est pour justement permettre à la population d'être présent après les heures de travail. Hein. Et puis, en ces temps de décembre, c'est moins chaud.
Au programme, 6 jeux tels que le rodéo, la saga Pueraba, il y a même des questions de culture générale concernant Taillepouest qui attend les compétiteurs. Pour ce qui est du jury, pour éviter tout discrédit, l'association a préféré faire appel à des référents jeunesse extérieurs à leur commune.
Un système de navette a été mis en place. Les bus partiront de chaque commune associée à 17h30 et ils sont gratuits.